Je ne trouve pas scolaire dans vos contacts. Je ne trouve pas scolaire dans vos livres.
Est-ce que ça marche?
Qu'est-ce qu'un protocole au sens scientifique et à quoi sert-il? Structure rigide, prescriptive, universelle ou plutôt vecteur de renouvellement de la recherche scientifique. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur la manière de faire science autrement. Bienvenue à
Scolaire. Théorie dysfonctionnelle.
Une balade de diffusion qui nous explique
que la théorie ne
sert à rien,
mais qu'elle a le mérite
de nous faire perdre beaucoup de temps.
Bonjour, je suis Yann Audin.
Je suis Arilis Gia.
Je suis Marcello Vitali Rosati.
Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Seret. Bonjour Nicolas, veux-tu te présenter?
Oui, bonjour. Écoutez, je suis maître de conférence à l'université Paris 8, tout juste en poste. Je suis en sciences de l'information et de la communication, mais je travaille principalement dans le champ des humanités numériques. Après quoi, j'ai fait 2 ans de post-doc dans 2 laboratoires différents, engagés notamment sur une réflexion sur les outils et les méthodes des chercheurs en lettres et sciences humaines.
La notion dont tu veux nous parler aujourd'hui, c'est la notion de protocole. Peux-tu nous faire une définition simple?
Oui, le protocole, c'est en quelque sorte une suite d'instructions, une suite de tâches qui ensemble va constituer une méthode et qui va guider un travail de recherche. Ça peut être l'édition d'un ouvrage, l'édition d'un numéro de revue. Typiquement, c'est ce qu'on apprend à appliquer lorsqu'on étudie. On commence un travail de recherche. Voilà comment on va mener une étude. Et puis, c'est ce qu'on va aussi tenter d'appliquer un peu plus en autonomie lors d'une thèse. Le protocole, c'est aussi ce qui vient régir une situation de communication. Est-ce que je rencontre telle personne? Est-ce que je lui serre la main? Est-ce que je dois lui sourire? Donc, c'est un protocole qui peut être tacite, peut être culturel, mais il peut être aussi extrêmement précis. Comme c'est dans le cas, par exemple, dans des contextes diplomatiques. Et c'est encore ce protocole-là qui régit la mise en communication de 2 machines sur un réseau informatique, par exemple, ou la communication entre une page web et une base de données sur le web. Voilà. Et ce rapprochement entre un protocole, donc ces protocoles numériques et les protocoles de communication classiques, diplomatiques, etc., ce rapprochement n'est pas anodin parce qu'en fait, nos vies sont de plus en plus investies dans l'espace numérique et donc soumises également à ces protocoles machines, à ces protocoles logiciels qui, évidemment, ne sont pas neutres.
Du coup, les protocoles ne sont pas que numériques, ils sont aussi ailleurs.
Ils sont tout à fait ailleurs et la manière dont je réfléchis, moi, la notion de protocole, il s'agit justement surtout de s'organiser à plusieurs pour un travail de recherche, pour une étude, pour une écriture. Donc c'est un petit peu comment, à plusieurs, on arrive d'un point A à un point B. Comment je vais réaliser une mission, comment je vais réaliser un projet complexe. Et le protocole, en fait, c'est cette partition qu'on va écrire en amont et puis qu'on va ensuite exécuter. Alors, on ne sait pas toujours ce qui va se passer lorsqu'on exécute la partition, mais par contre, la partition nous dit par où on va passer. Donc, c'est un peu un guide vers une destination.
Est-ce que la dimension collective est toujours fondamentale dans les protocoles? Tu l'as répété à plusieurs fois, tu dis « à plusieurs ». Est-ce qu'il y a des protocoles aussi en dehors d'un travail collectif ou le protocole tel que tu le penses et tel que tu le proposes demande toujours qu'il y ait plusieurs personnes? Et est-ce que c'est toujours des personnes?
Alors, fondamentalement, on peut considérer produire, penser un protocole seul et l'appliquer également en solo, selon ce qu'on a à faire. Mais effectivement, ce qui m'intéresse moi davantage avec le protocole, c'est que c'est pas simplement quelque chose à suivre, c'est aussi le support qui nous permet à plusieurs de réfléchir à ce qu'on fait. Et donc, c'est une clé pour, d'une part, se peut-être remettre en question nos pratiques, mais aussi retrouver du sens dans ce qu'on fait à partir du moment où on ouvre cette réflexion, la réflexion de l'écriture du protocole, à plusieurs personnes. Et ces personnes, Ça peut être évidemment nos pairs, des chercheurs, on travaille ensemble sur un projet, mais ça peut aussi être les personnes concernées par notre étude. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où la recherche devient située, lorsque ce protocole, dans sa conception même, s'ouvre et s'élabore avec les communautés participantes à un travail de recherche.
Il semble avoir deux aspects donc au protocole, l'aspect codifié et l'aspect qui est plus une convention. Est-ce que tu veux parler du rapport entre cette codification-là et cette convention, parce que certains protocoles ne sont pas codifiés et d'autres ne sont pas forcément conventionnels?
Alors, de mon point de vue, pourquoi parler de protocole, pourquoi choisir cette notion? C'est justement pour bousculer un petit peu les conventions en place, notamment dans le monde académique. La raison pour laquelle je me suis intéressé au protocole, c'est parce que en étudiant pendant le doctorat les processus éditoriaux de revues scientifiques, je me suis rendu compte que les protocoles mis en place par ces revues sous couvert de scientificité, ces protocoles étaient en fait en permanence négociés, altérés, un peu corrompus dans la mise en pratique, dans l'application de ces protocoles. Donc je me suis demandé pourquoi ces protocoles étaient à ce point-là altérés dans leur mise en pratique. Et je me suis une des conclusions auxquelles je suis allé, c'est cette idée que ces protocoles mériteraient d'être réouverts, d'être remis en question et d'être retravaillés de manière collégiale. Et cette réflexivité sur le protocole, en fait, nous permet de déplacer le regard, de redevenir critique sur nos pratiques, peut-être dans un premier temps pour prendre le temps, peut-être d'accueillir d'autres formes de savoir. Et c'est une manière effectivement de bousculer le protocole conventionnel. Dans le monde académique, la convention va servir à normalement créer de la rigueur, créer de la scientificité. Or, l'idée de réouvrir le protocole, c'est un petit peu reconnaître la valeur du bricolage, c'est-à-dire de se dire, plutôt que de reprendre des protocoles éprouvés sur le plan académique pour écrire un texte, pour mener une étude, peut-être qu'on peut faire table rase de tout ça et se remettre à bricoler, se défaire en fait des pratiques académiques qui sont parfois poussiéreuses pour tenter d'autres choses, d'autres méthodes, d'autres collectes et bien sûr d'autres formes d'écriture. Et ça passe par une double ouverture, une ouverture à la fois pour rendre ce protocole transparent, et c'est là où, à mon avis, où la scientificité revient dans le bricolage que peut-être on est en train de faire, c'est-à-dire qu'en documentant le protocole que l'on est en train d'élaborer, on le rend transparent et on réinscrit une certaine scientificité, cette capacité de venir critiquer le travail notamment. Puis une deuxième ouverture de ce protocole, c'est surtout de le co-construire, de le rendre plus horizontal et surtout de l'ouvrir à des communautés, à des terrains, aux terrains que les chercheurs sont en train d'étudier.
On aimerait avoir un exemple pratique de la notion de protocole. Et tu as mentionné plus tôt la chaîne éditoriale des revues scientifiques. Comment est-ce que leurs protocoles sont soit désuets ou pourraient être améliorés?
Alors effectivement, les revues scientifiques, les comités scientifiques des revues, normalement, se sont mis d'accord sur un protocole et tentent de suivre, on va dire, les bonnes pratiques de l'édition scientifique. Et ces bonnes pratiques vont supposer que, par exemple, hein, je donne un exemple, en essayant d'être relativement générique, mais on lance un appel à articles ou à propositions d'articles. Ces propositions d'articles sont lues par un groupe de personnes, sont sélectionnées peut-être. Les auteurs sont notifiés d'un refus ou d'une acceptation. À partir de là, les auteurs vont peut-être se mettre à écrire ou à finaliser un article plus conséquent qui lui-même va être à nouveau soumis. À partir de cette soumission, on va faire appel à des évaluateurs, deux évaluateurs. Ces évaluateurs vont venir lire le texte. Peut-être qu'ils vont lire en simple aveugle ou en double aveugle. Est-ce que les auteurs seront, le nom des auteurs seront visibles? Est-ce que les auteurs seront anonymisés? De la même manière, est-ce que les commentaires des évaluateurs seront donnés à voir à l'auteur? Est-ce que ces commentaires seront anonymisés à nouveau, etc., etc. Donc, toutes ces modalités ensemble, forment le protocole éditorial de la revue. Et évidemment, ça va du point A, c'est-à-dire le lancement d'un appel, jusqu'au point B, c'est-à-dire la publication de la revue, que ce soit en ligne ou en papier. Et du point A au point B, on a mis en place toute une série d'instructions. Et ces instructions sont censées vraiment régir le processus éditorial et apporter une rigueur scientifique convenue, c'est-à-dire conventionnelle, qui nous permet de dire, de légitimer en fait la revue, le travail de la revue, et donc de légitimer les textes scientifiques en tant que textes scientifiques justement. Voilà. Et c'est à l'étude de ces différents protocoles dont je me suis rendu compte d'une part que malgré les bonnes pratiques, il y avait une pluralité de modèles et que chaque revue en fait adaptait ce type de protocole générique à sa sauce. Et avec surtout au cœur des grandes décisions à prendre, notamment est-ce que on accepte un article ou pas, est-ce que on demande telle ou telle chose à cet auteur, en fait, les protocoles étaient en permanence renégociés au sein de cercles très restreints, parfois entre un directeur de dossier et le comité, parfois entre le directeur de la revue et l'auteur, parfois entre l'auteur et le directeur du numéro, etc., etc. Et ces cercles restreints renégociant finalement le protocole, c'est-à-dire le tirant vers souvent ce qui les arrangeait, en quelque sorte délégitimait toute la rigueur scientifique qui était initialement prévue dans le protocole. Et donc, plutôt que de remettre de la rigueur, c'est-à-dire de rigidifier encore plus le protocole, comme tentent de le faire notamment certaines plateformes de gestion de manuscrits, hein, on peut penser à OGS par exemple. Plutôt que de tout rigidifier et surtout de tout inscrire dans une plateforme numérique, c'est-à-dire dans un protocole qui serait entièrement régi par une plateforme, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas, au contraire, faire table rase de ce protocole et repenser la fonction de l'évaluation, la fonction des différentes personnes présentes dans ce processus, et à nouveau recréer une certaine horizontalité dans le processus éditorial. Pour cela, donc, il fallait, que j'ai pu dire tout à l'heure, ouvrir le protocole, le réouvrir au sens de le rendre transparent, fondamentalement, et surtout de le co-construire avec les acteurs impliqués dans ce processus éditorial.
Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu dis, Nicolas, et en particulier la tension entre la rigidité et l'ouverture du protocole. Il me semble que, alors juste actuellement, nous sommes en train d'enregistrer notre balado avec un dispositif sans un protocole bien défini. Nous sommes sur Jitsi, nous sommes dans trois endroits différents et nous ne nous sommes pas vraiment mis d'accord sur comment on allait fonctionner. Ce qui fait qu'on ne sait pas comment on fait pour prendre la parole, par exemple. Là, je viens d'élever la main sur Jitsi. En fait, ça fait un pont avec notre troisième question, mais en même temps, ça pose une question selon moi sérieuse. Si le protocole n'est pas rigide, il risque de ne pas fonctionner. Alors, dans certaines situations, ça peut être très grave. Le protocole de la route, par exemple. Est-ce que si le protocole de la route n'est pas rigide, si on le réinterprète, le principe de la balado scolaire, c'est qu'on aime les choses qui dysfonctionnent. Donc, la question que je vais te poser, c'est comment les protocoles nous font dysfonctionner, mais aussi de quelle manière ce dysfonctionnement est compatible avec la nécessité opposée de rigidité du protocole qui est là justement pour garantir quelque chose.
Alors, je continue de penser que le protocole est toujours en négociation lorsqu'il est mis en application. Pour revenir à cet exemple du code de la route, si on devait suivre le protocole à la lettre, je pense qu'il y aurait tout autant d'accidents que s'il n'y avait pas du tout de protocole. Je pense qu'on est en permanence en train de négocier les situations, et donc on est en permanence dans une adaptation d'une confrontation en fait entre effectivement ce qui est prédéfini par le protocole et ce qui se passe réellement. Et ça me semble tout à fait riche et tout à fait intéressant. C'est ce qui se passait c'est ce qui se passe dans les revues scientifiques, mais plutôt que de le rendre caché, c'est-à-dire de penser que cette négociation avec le protocole est mal, en quelque sorte, ne doit pas être exposée, ne doit pas être rendue publique, bah, peut-être qu'au contraire, on devrait rendre publiques ces négociations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces négociations se passent à travers des conversations. Et ces conversations, en fait, sont, selon moi, là où se passe la fabrique du savoir. Alors, ce qui m'intéresse, moi, avec le protocole, c'est justement ce déplacement de regard depuis, on va dire, le résultat de recherche, ou peut-être le texte écrit, à tout le processus qui a permis d'arriver au résultat de recherche, donc pourquoi pas à la fin d'une étude, ou qui a permis d'arriver à ce texte rédigé. Et donc, c'est s'intéresser au protocole permet de déplacer le regard sur le processus. C'est pas quelque chose de nouveau, mais ça me semble, en particulier dans le monde académique, ça me semble quelque chose de fondamental, puisque on a eu effectivement ce mouvement d'ouverture des publications, l'open access, puis l'ouverture des données, l'open data. Et il me semble que le monde académique aujourd'hui est mûr, et on le voit à travers différentes pratiques aujourd'hui, mais le monde académique peut aujourd'hui ouvrir ses protocoles de recherche pour davantage de transparence et donc, selon moi, de scientificité. Quand je parle de plateforme là, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les protocoles de bas niveau du numérique, pourquoi pas ceux qui régissent Internet, ceux qui régissent le web, en fait, contaminent progressivement les différentes couches d'écriture qui s'ajoutent et qui se surajoutent les unes aux autres, et elles les contaminent avec notamment par les présupposés qui ont été inscrits dans leurs protocoles et qui contaminent les protocoles jusqu'à nos protocoles humains, nos protocoles sociaux, pourquoi pas dans le monde académique, de recherche, d'écriture, etc. Donc c'est cette articulation entre ces protocoles numériques, les logiciels qu'on va pouvoir y inscrire, et nos protocoles d'écriture qui m'intéressent. Alors pourquoi ça dysfonctionne ? Ce qui me semble intéressant, on parlait de dysfonctionner, on parlait de perdre du temps. Je pense que sur le plan académique à nouveau, moi ce qui m'intéresse, c'est ce déplacement de regard, et c'est donc de redevenir critique. Donc, s'intéresser aux protocoles, et surtout faire table rase de nos protocoles éditoriaux du monde académique, c'est redevenir critique par rapport à ce qu'on fait. Et c'est notamment redonner du sens, ou en tout cas se mettre en capacité de redonner du sens à la recherche, c'est-à-dire notamment comment redonner du sens, et là je fais appel notamment à Isabelle Stengers, mais c'est faire cette science autrement, c'est vraiment resituer nos recherches, nos études, nos questionnements au sein d'une communauté, au sein d'un terrain, qui doivent être partie prenante de ces recherches. Et le lieu ou l'objet où cette mise en situation peut se faire, c'est justement dans une co-construction des protocoles de recherche ou d'écriture. Donc, chercher avec, écrire avec les personnes concernées et qui d'ailleurs devraient être précurseurs des questions de recherche, que le chercheur vient en fait se mettre au service de ces communautés et des questions que la communauté va poser.
Je vais conclure avec une question qui fait pont d'ailleurs avec ces ouvertures un peu sur l'avenir et sur la manière de repenser les protocoles que tu évoques. En fait, on parlait plutôt de divergence entre les protocoles établis et les pratiques réelles, mais presque contradictoirement, on parle quand même de protocoles qui sont construits en amont. Et je me demandais si tu voulais nous parler, peut-être juste pour conclure, à quel point les protocoles devraient plus être pensés a posteriori plutôt qu'a priori, à quel point les protocoles sont plutôt immanents du travail qu'ils régissent et non pas construits avant. Donc, quelle est cette relation ? Est-ce que le travail émerge du protocole ou est-ce que le protocole émerge du travail ?
Oui, alors c'est intéressant. L'idée d'ouvrir le protocole, c'est l'idée de, selon moi, de le documenter en particulier, c'est-à-dire de le formaliser peut-être de manière à ce qu'il soit reproductible. Alors pas reproductible au sens de la science reproductible comme tout le monde cherche à le faire aujourd'hui, mais plutôt au sens où cette écriture, cette documentation suppose ou impose une réflexivité sur ce qu'on vient de faire ou sur ce qu'on est en train de faire. Et c'est cette réflexivité-là qui va, je pense, rehausser peut-être, tirer vers le haut plutôt, la recherche ou l'étude en train de se faire. je pense qu'il faut toujours un protocole au départ. C'est souvent ce par quoi on commence. Alors, on commence souvent par une question, mais même l'élaboration de cette question, elle va être soumise à une certaine méthode, donc à une certaine forme de protocole. C'est comme une recette de cuisine. La recette de cuisine, elle est là, elle préexiste. Peut-être elle préexiste juste dans la tête. Et puis ensuite, il y a la mise en application. Et peut-être que c'est à cette mise en application qu'effectivement, on va vouloir réécrire la recette parce qu'on a ajouté quelque chose. On s'est trompé. On a fait des erreurs. Et ces erreurs ont peut-être été bénéfiques. Et on va vouloir partager ça. Et donc, effectivement, à ce moment-là, on réécrit la recette, on réécrit le protocole pour que ce qui s'est bien passé et ce qui s'est mal passé soit partagé au reste de la communauté.
Merci beaucoup Nicolas Seret pour cet exposé sur les protocoles. Merci d'avoir été des nôtres.
Merci beaucoup.
À tous ceux et celles qui nous écoutent, à très bientôt.
Merci d'avoir écouté Scolet, une balade aux diffusions proposée par la Chaire des recherches du Canada sur les écritures numériques. Nous espérons que vous ne retrouverez pas les temps perdus, mais que vous continuerez à en perdre encore, en nous suivant sur scolet.écriturenumérique.ca, SKHOLE écriturenumérique au pluriel.ca, et en écoutant nos prochains épisodes.